Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
En septembre 1985, Ran, de Akira Kurosawa, film nippo-français dans sa production, était présenté en avant-première à Paris. Grande fresque historique dans le Japon du XVIe siècle ravagé par la guerre, Ran, que l'on peut traduire par « chaos », s'inspirait librement du roi Lear de Shakespeare. Son budget de 12 millions de dollars faisait alors de ce film le plus cher de l'histoire du cinéma japonais. Avec ses milliers de figurants, ses centaines de chevaux, ses costumes et ses décors somptueux, Ran fut le dernier grand film épique de Akira Kurosawa. Chris Marker en a filmé le tournage près du mont Fuji pour un documentaire intitulé des initiales AK de celui que l'on surnommait l'Empereur. Dans les nuits magnétiques, à l'occasion de son avant-première parisienne, Serge Doubiana et Hélène Pommier proposaient une rencontre avec Akira Kurosawa, son producteur français Serge Silberman et le directeur de production Uli Picard. Nuit magnétique, autour de Ran, avec le cinéaste Akira Kurosawa.
Bande-son originale pour un événement qui ne l'était pas moins, c'était le 20 septembre, à l'occasion de la première sortie en France sur la façade du centre Beaubourg de Ran, le dernier film du cinéaste japonais Akira Kurosawa. Cette projection privée, lancée en ouverture de la fête du cinéma et sous le patronage du Festival de Cannes, réunissait le tout Paris de la culture invité d'honneur de cette soirée. Un privilège guère goûté par les exclus qui, de l'autre côté des barrières, n'ont pas manqué pendant toute la projection d'exprimer leur mécontentement. Un accueil mouvementé à la mesure de Kurosawa qui, lors de la conférence de presse du lendemain, se montrait fort réjoui de cette réception très particulière.
Je ne peux pas parler de la réaction des spectateurs français parce que c'était une projection en plein air et je pense qu'elle n'était pas tout à fait les mêmes que celles des projections en salle. Mais d'une manière générale, la différence entre spectateurs japonais et français, c'est qu'au Japon, on ne montre absolument pas ses émotions. Les salles sont toujours très calmes, alors qu'en France, c'est le contraire. Et je trouve que c'est mieux ainsi. Je préfère qu'on réagisse. C'est un grand plaisir pour le réalisateur. Sinon, il a l'impression de s'être trompé. Depuis l'époque de Rashomon, je sais très bien que dans tous les pays étrangers, on aime mes films. Mais simplement, cette aide tout à fait concrète de la France m'a profondément touchée, et d'autant plus que ce film est entièrement et purement japonais, par la forme, par le contenu. Et j'étais très émue que le gouvernement français veuille m'aider de cette manière. Et j'étais embarrassée. Non pas que je ne sois pas habituée à l'engouement pour mes films, mais par cette manière tout à fait concrète. Et j'en ai demandé le pourquoi à Jacques Lang. Il m'a répondu cette phrase magnifique. Parce que la France vous aime. Ça m'a beaucoup touchée.
Autour de Ran, une émission de Bertrand Raison, Serge Toubiana et Hélène Pommier. Avec les propos de Akira Kurosawa, Serge Silberman et Uli Picard. Ran, ou en japonais le chaos. Une tragédie en forme de fresque guerrière pleine du bruit et de la fureur de cette période du XVIe siècle qui, au Japon, a été désignée sous le nom d'époque des principautés belligérantes. Un grand seigneur, Hidetora Ichimonji, décide, au seuil de la vieillesse, de céder son pouvoir. Devant ses principaux vassaux, il confie les trois châteaux de son domaine à ses fils et nomme l'aîné Taro à la tête de sa maison. Le second, Jiro, prendra ses quartiers dans le deuxième château et le cadet, Saburo, dans le troisième. Saburo, qui prévoit déjà les rivalités entre ses deux frères, refuse la décision de son père. Blessé dans son orgueil, Hidetora le déshérite et le chasse de ses terres. Il s'enfuit vers les territoires voisins, fief d'un vassal de son père, Fujimaki. Comme prévu, Taro et Jiro s'entre-déchirent tout en s'accordant pour destituer leur père. Celui-ci, vaincu, abandonné, au bord de la folie, erre dans les vastes landes qui furent son domaine en compagnie de Kiwami, son bouffon. Ils forment tous les deux un couple dérisoire perdu dans l'immensité. En fait, la responsabilité de cette déchéance incombe à Dame Kaede, la femme de Taro. Vouant une haine farouche à son beau-père qui avait fait massacrer il y a longtemps toute sa famille, elle s'est jurée de détruire les maisons Ichimonji. Kaede, attisant la haine entre les deux frères, fait tuer Saburo au moment où celui-ci, réconcilié avec son père, le ramène sur son cheval sur les terres de Fujimaki. Hidetora meurt de chagrin aux côtés de ce fils bien-aimé. Cette histoire reprend le thème de la guerre entre père et fils, déjà présent dans Kagemusha, mais dans Ran, Kurosawa convoque les dieux pour être les témoins de ce désastre.
Un proverbe japonais dit que ce qu'on a fait dans sa vie nous revient à l'heure de la mort et qu'on doit rendre des comptes sur son activité sur Terre. Et ça, c'est très oriental. Hidetora, avant d'être ce qu'il est devenu, a commis un grand nombre de forfaits abominables qu'il doit payer. Un film, c'est destiné à être vu par le plus grand nombre de gens. C'est la raison pour laquelle il faut penser à ce qu'il soit réellement vu. Et si j'avais choisi un sujet concernant le Japon contemporain, j'aurais eu un certain nombre de problèmes à résoudre. Réunir les fonds aurait peut-être été très difficile. On risque de susciter beaucoup d'opposition de la part de ceux qui fournissent ces capitaux quant au sujet que je voulais traiter. D'autre part, je ne sais pas si vous connaissez bien le Japon, mais en tout cas, on pense que le Japon est un pays complètement libre où il n'y a pas de censure. Mais il y a une censure invisible qui est réelle. Et si je traitais les problèmes politiques du Japon contemporain, on ne pourrait pas s'empêcher de penser à toutes les pressions invisibles qui ne manqueraient pas de s'exercer à la sortie du film. Même si on réussit, avec un sujet sur le Japon contemporain, à réunir les fonds pour faire un film, on ne sait pas du tout comment il sortira, comment il sera accepté, et si même il sera distribué. Alors, j'ai pensé qu'il serait mieux de parler de ce dont j'ai envie de parler en changeant l'époque, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je veux dire. L'époque qui suit celle que j'ai choisie, le XVIe siècle, c'est l'époque des Tokugawa. Pendant plusieurs centaines d'années, le Japon a vécu sous un régime féodal, sous un ordre féodal très strict, où les hommes et les classes sociales étaient complètement contrôlés, où il n'y avait pas de possibilité de passage d'une classe à l'autre, où les gens n'avaient pas le droit à la parole, étaient sous le joug du pouvoir d'un seul. Par comparaison, Au XVIe siècle, les hommes étaient encore libres. Ils pouvaient vivre de la manière qu'ils l'entendaient. Un paysan, s'il en avait la capacité, pouvait devenir un maître de domaine. Si le seigneur ne lui plaisait pas, il pouvait le quitter ou quitter le domaine et aller ailleurs. On vivait selon sa propre personnalité, sa propre identité. C'était une époque où les caractères pouvaient s'affirmer. Le sujet du film étant de peindre les hommes tels qu'ils sont, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce XVIe siècle, où les hommes étaient des hommes à part entière. D'autre part, la culture était riche et vivante. Les gens avaient un grand sens esthétique. Et même si l'on se place d'un point de vue contemporain, la conception des dessins, des lignes et des couleurs est tout à fait moderne. Plus moderne encore que ce qu'on fait aujourd'hui. L'art était très raffiné, si l'on en juge par les armures, les casques qui nous restent, et dont j'ai utilisé parfois des originaux. J'ai essayé de les reproduire le plus fidèlement possible. Bien sûr, parfois en y ajoutant quelques idées personnelles, mais pour la plupart, ce sont des reproductions exactes d'armures anciennes.
Réalisé grâce à l'obstination de son metteur en scène, Rann n'aurait pu sortir sur les écrans sans la ténacité d'un producteur français, Serge Silbermann. Ce personnage haut en couleur dans la profession depuis une trentaine d'années et à qui l'on doit entre autres Le Trou de Jacques Becker, Bob le Flambeur de Jean-Pierre Melville et les derniers films de Buñuel, met sur le compte du hasard sa rencontre avec Kurosawa. Un hasard qui se transforme en coup de cœur, condition d'ailleurs essentielle pour qu'il s'engage dans l'affaire. En effet, Serge Silbermann avoue en riant qu'il ne calcule que ce qu'il va perdre et ne produit que tenailler par ce qu'il appelle l'amitié, la rage de s'occuper de tout. Une passion qu'il préserve farouchement et qui va l'entraîner pendant 3 ans dans l'aventure Rann.
Je l'ai rencontré, d'ailleurs, de façon assez drôle, avec une certaine curiosité. J'étais curieux comment un Toscan diplantier pouvait venir par téléphone. Et il m'a dit, mais c'est Kurosawa. Alors, ma réaction était tout de suite, est-ce que Kurosawa m'a accepté comme producteur? Ben, il m'a dit, tout arrangé. C'était curieux, tout arrangé. Je voudrais bien entendu vérifier comment tout est arrangé. Ensuite, je lui ai dit, bon, Kurosawa a accepté, il faut que moi je dise le script. Parce que quand même, vous savez, avec tout le respect que je lui dois, il faut que j'aime aussi ce qu'on doit faire. J'ai demandé lire le script, je l'ai lu d'un seul trait, malgré qu'il était très très long. Quand je suis venu chez Kurosawa, avant tout, je t'ai demandé Toscan, qu'est-ce qu'il veut de moi? Puis il dit, c'est très simple, faites un film pour moi, c'était à Paris déjà, avant, une heure avant que je devais rencontrer Raphaël Kurosawa. Akira, et me dit, c'est très simple, Gaumont et Colombe vont faire le film, et vous le ferez comme producteur, on vous donnera 18% de participation. On vous donnera. Alors j'ai dit, on ne peut rien me donner, c'est moi qui fais le film. Si vous voulez, moi je fais le film, mais je fais le film à une condition, qu'on fait 50-50. Mais en fin de compte, déjà dans ma tête, j'étais prêt de payer au départ 50-50. Bon, après que j'ai vu Kurosawa, il m'a présenté, on avait un déjeuner, tout de suite, avec Catherine Cadou à côté. J'ai dit à mes présents, ça a fâché. J'ai senti tout de suite que les traductions ne sont pas tellement directes comme j'ai parlé. Parce que c'est un traducteur français. Quand ils traduisent au japonais et quand ils veulent leur être agréable, ils traduisent toujours un tout petit peu en adaptant pour que ça ne soit pas trop violent. On s'est assis à table dans le salon de Raphaël. Bon, il y avait Kurosawa, il y avait Onogami, qu'on appelle au Japon Noncha. Et c'était la collaboratrice de Kurosawa depuis 25 ans. Parce que ma collaboratrice, c'était tout. Même quand il n'avait pas de travail, c'est elle qui a trouvé des possibilités pour qu'elle gagne de l'argent. C'était quelqu'un, je pense qu'il y avait énorme tendresse d'être un Onogami pour Kurosawa. Alors j'ai dit, on est à table, alors moi je ne suis pas tellement bien élevé, j'essaie quand même de ne pas être trop... Et je dis à Kurosawa une question un peu enveloppée. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Akira Kurosawa, que je fasse au Japon si je viens? Est-ce que je voulais, vous attendez de moi que je signe l'échec? Je pense qu'on lui a bien traduit le mot. Parce que tac à tac, pas réfléchissant beaucoup, il répondit, vous savez, on m'appelle au Japon l'empereur. Mais avec vous, je ferai tout de commun accord. Et quand il m'a dit, je ferai tout de commun accord, j'ai dit, d'accord, je viens au Japon. Je suis parti au Japon 8-9 jours plus tard. Parce que j'ai perdu 9 jours pour mettre au point un protocole d'accord avec Nicolas Sedou de Gaumont, qui est quand même le véritable patron. Et j'ai eu un pifomètre extraordinaire. J'ai dit à Nicolas Sedou, est-ce que vous savez combien le film coûte? Il dit oui. Il m'a donné un devis de 7 millions de dollars. Et il m'a promis que le film va coûter 6. J'ai dit, ce devis que vous avez vu, c'est un résumé, je l'ai vu aussi. Il manque déjà quelques positions importante. De l'autre côté, j'ai lu le script. C'est un film assez dense, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas du tout Kagemusha. Kagemusha a coûté 6 millions. C'est pas possible. Au minimum, je connais pas le condition au Japon, c'est dans les 12. 11-12. S'il n'y a pas de gaspillage. Mais aussi pour savoir le coût du film, j'ai dit, il faut dépenser au moins 10% du coût du film pour le préparer. Et ça, c'est le premier risque. Si on ne dépense pas 10% du film, on n'est pas producteur du film, pour dire si on ne risque pas, pour dire si on fait ou on ne fait pas. À ce moment-là, pour faciliter les choses, j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Je vais partir au Japon avec mon collaborateur. Je vais dépenser peut-être pas 10%, je commençais à dépenser 5 millions de francs. Et je pense qu'à 5 millions de francs, ou 6, je pourrais déjà vous dire combien le film coûte. À peu près. Et je pense moi-même. Si vous ne voudrez pas le faire, et l'affaire ne se fait pas, et je ne continue pas, vous me remboursez l'argent. En fin de compte, il a signé le protocole comme je voulais. Et je suis parti le lendemain. Parti le lendemain avec Picard, qui était toujours mon directeur de production, et que je connais depuis presque 25 ans. Et bien entendu, à ma grande surprise, Kurosawa était à l'aéroport, en m'attendant avec sa voiture, sa Mercedes blanche, avec toute sa suite. Il m'a amené à l'hôtel, où dans la chambre était plein de fleurs, toujours de sa part. Kurosawa me dit, on va commencer à travailler, demain matin je viens chez vous à 1h. Je venais tous les jours à 1h. Le premier jour que je viens à 1h, j'ai parlé des prix beau temps, un peu de script, un peu de ça. Et il a oublié complètement que je lui dis à Paris déjà que le script est trop long. Et j'apprends une nouvelle le lendemain matin que M. Kurosawa dit, j'ai parié qu'il n'a pas lu le script. Alors à ce moment je dis, ben, il va voir. Je me suis assis et j'ai fait des notes pour 1h. Et quand il est venu, j'ai commencé à lui dire que le script est un peu long. Et avec ma grande surprise, ça s'est passé d'une façon complètement sans accroc. On peut, d'après le dépouillement en discutant avec le metteur en scène, on peut calculer à 5% près le début du film. Ça prend du temps. Mais en même temps, on a travaillé sur le scénario. Quand ça me dit, est-ce que je ne peux pas lui donner quelqu'un d'Europe pour travailler avec lui ensemble pour le raccourcir? Je dis, écoutez, je pense que c'est difficile. C'est un film terriblement japonais. Et vous savez, le 18 janvier, on a commencé à travailler le 15 septembre à 82 à Tokyo. Le 18 janvier 1983, le script presque définitif, ce que vous avez dans le film, était terminé. Mais vous savez, on peut écrire le scénario le plus précis, mais dans les films, quand on est en contact avec la réalité, qu'on n'a pas prévu, avec des difficultés, il faut toujours prendre en considération ce qu'on a trouvé. Et comme Kurosawa a dit, il faut s'adapter aux acteurs aussi. Ça, c'est le petit pinceau d'acteurs qui arrivent en plus, de peintres qui arrivent en plus, ou de créateurs.
Abandonné en cours de route par la Gaumont, Serge Silverman continue seul et trouve le moyen de convaincre les financiers nippons pour monter l'opération. Une partie très rude qu'il résume ironiquement en deux mots, du risque et de l'humour.
J'annonce la nouvelle, je ne me suis pas trompé de devis. J'ai dit entre 11 et 12, c'est 11 millions et demi de dollars. J'ai vu la tête, j'ai compris que je ne peux pas compter sur eux.
À côté du producteur, il y a l'homme du terrain, Ully Picard, le directeur de production, la cheville ouvrière de tout projet cinématographique. Dans le métier depuis 50 ans, il a occupé tous les postes de la profession. Assistant de Max Ophuls sur Lola Montes et de Jacques Becker sur Casque d'or, il a été associé sur presque tous les films produits par Serge Silverman en tant que directeur de production. Dès 82, le tandem se rend au Japon et le dialogue pratique avec le metteur en scène commence. Il s'agit tout d'abord de répondre à une question en apparence anodine, comment se faire comprendre par l'équipe japonaise. Question subsidiaire, ou tourner.
Sans parler le japonais, ce film était impossible à préparer pour moi. Enfin, même impossible à monter pour Serge. Donc, arrivé à Tokyo, mon premier souci était de trouver un interprète qui connaisse le métier. Or, à ma stupéfaction, on m'a dit « ça n'existe pas ». Au bout d'un moment, j'ai dit à Serge « si je ne trouve personne, on n'a qu'à faire nos valises et rentrer à Paris ». Et j'ai une idée, j'ai téléphoné à un ami qui est directeur de Panavision à Los Angeles et je lui ai demandé, j'ai dit « mais il y a beaucoup d'Américains qui ont tourné au Japon, il doit y avoir certainement quelqu'un capable de parler l'anglais et qui connaissent le métier ». On m'a dit « mais bien sûr ça existe ». Et on m'a donné le nom de quelqu'un, mais qui habitait Kyoto. C'est un garçon qui s'appelait Takashi Ohashi. Et lors de mon deuxième voyage au mois d'octobre à Tokyo, je l'ai rencontré et j'ai appris qu'il avait déjà travaillé avec Kurosawa. Et finalement, ils ont accepté, après quelques réticences, que ce soit Takashi Ohashi qui soit pratiquement mon adjoint. Deuxième étonnement pour moi, c'était d'apprendre que Kurosawa ne savait pas où tourner le film. Je pensais, comme il était sur cette affaire depuis 5 ans, qu'il savait où tourner. Donc, il a fallu partir avec lui, son décorateur, son assistant, son chef opérateur, etc. En 82, nous sommes partis au nord du Japon, dans l'île de Hokkaido, pour chercher les lieux. Entre-temps, j'avais fait un dépouillement précis des lieux qu'il fallait trouver et, feuille de dépouillement en main, j'ai donc suivi ce repérage et je me suis aperçu très vite que cela posait de grandes difficultés car certaines scènes étaient situées dans un endroit, mais le contre-champ à 200 ou 300 kilomètres de là. Et j'ai fait un mémorandum à Kurosawa dans lequel je donnais mon impression et je suggérais qu'on puisse réunir tout de même les lieux de tournage pour diminuer le risque du temps et le risque lié à tous les déplacements avec énormément de monde et aussi les constructions qu'il y avait à faire, de les grouper plus ou moins dans un seul endroit. Et lorsque je suis revenu à mon troisième voyage en janvier 83, Kurosawa m'avait répondu par un contre-mémorandum en disant qu'il avait étudié mes suggestions, que j'avais tout à fait raison, qu'il allait abandonner le nord du Japon et que nous allions recommencer des recherches tout à fait au sud du Japon, dans l'île de Kyushu. Nous sommes donc partis au mois de février 83 à Kyushu, toujours accompagnés de ses collaborateurs, toujours dépouillement en main. Nous sommes tombés sur un froid épouvantable et nous avons trouvé plus ou moins 80% des lieux dans l'île de Kyushu, c'est-à-dire dans le parc national d'Aso, au plateau volcanique, très beau, très, très rude. Et ensuite, nous avons trouvé, toujours dans l'île de Kyushu, certains lieux à Kumamoto, au château de Kumamoto, d'autres lieux dans les ruines d'un autre château au nord, à Karatsu, etc. Et nous avons déterminé des lieux où nous allions construire les châteaux dont l'un devait être brûlé, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Gotemba, au pied du mont Fuji. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie préparation a commencé, discussion avec tous les fournisseurs des armes, des armures, des costumes, les constructeurs de décors, avec les studios, avec toutes les industries techniques, laboratoires, etc. Toujours à travers mon traducteur, ce qui nécessitait beaucoup de patience parce que tout ce que je disais, il fallait les traduire, attendre la réponse en japonais, me retraduire en anglais, etc. C'est donc une préparation très longue, mais nécessaire, qui m'a permis de mettre sur pied à la fois un plan de travail étalé sur près de 9 mois et un budget très précis qui permettait à Serge Silverman de connaître le coût du film. Kurosawa, bien entendu, comme tous les grands réalisateurs, se réserve toujours un domaine qu'il appelle la liberté de création. Et nous avons eu quelques frictions, parce que quand j'ai voulu des précisions sur certains points du découpage, ça l'énervait, parce que personne jusque-là au Japon n'a osé lui poser des questions aussi précises. Je cite un exemple. Certaines scènes étaient indiquées dans le découpage, crépuscule ou aube. Chacun sait qu'un crépuscule, ça dure très peu de temps. Donc, une de mes questions était, est-ce que c'est une simple indication? Est-ce que vous avez vraiment l'intention de tourner pendant le crépuscule? Car dans ce cas-là, une séquence qui s'étend sur 10 ou 12 pages veut dire que nous sommes obligés de revenir à cet endroit peut-être pendant 10 ou 15 jours. Alors ça l'a énervé et je lui ai dit, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas vous énerver, car je ne suis pas là pour détruire l'affaire, je suis au contraire là pour vous aider. Seulement pour calculer, j'ai besoin de ces détails-là parce que ça a forcément une incidence sur le temps, donc sur le budget. Alors petit à petit, je lui ai tiré les vers du nez, si j'ose dire, et j'ai su tous les détails, disons, à 90%, parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. C'est-à-dire qu'une fois sur les lieux, en fonction du ciel qu'il désire, en fonction d'une idée surgit brusquement, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais nous l'avions calculé dans le plan de travail, qui était tout de même très long. Et je dois dire que on a tourné de façon très fonctionnelle, peut-être de façon tout à fait différente qu'en France, puisque en France, on tourne 6 jours et on se repose. Alors qu'au Japon, nous avons tourné quelquefois 15 jours de suite, même les jours de fête, dimanche, n'importe, et on s'est reposé ensuite pendant 4-5 jours. D'autres fois, nous avons attendu un temps favorable au point de vue apparition de nuages ou de certains brouillards ou de certains coups de typhon pour avoir l'ambiance nécessaire pour la scène et nous avons bien entendu perdu du temps. C'est normal pour un film d'une telle envergure.
Oui, Picard.
Kurosawa avait pratiquement une salle de montage volante qui le suivait, et dès qu'il y avait un jour de repos ou dès qu'il faisait mauvais et qu'on ne pouvait pas tourner pour une raison quelconque, il était enfermé à l'hôtel dans sa salle de montage volante et montait le film. Et cela a permis de ne pas tourner des choses inutiles et de connaître exactement les scènes de raccord, de ciel, d'ambiance, et de faire un travail très constructif. Normalement, on fait son choix pendant le film, après les projections, et on procède au montage après le film. Mais comme lui est son propre monteur, il a préféré faire le montage au fur et à mesure du tournage. Il a de très nombreux assistants, mais c'est lui qui fait le montage.
Une fois les lieux de tournage choisis, il reste bien sûr toutes les préparations, c'est-à-dire la sélection des 900 armures, la confection du millier de costumes, le choix des motifs, les répétitions des acteurs, sans parler des problèmes d'intendance. Par exemple, comment nourrir 900 figurants? Où dresser les 220 chevaux utilisés lors des scènes de combat? Comment aligner plusieurs centaines de fantassins en ordre de bataille? Tous ces problèmes doivent bien sûr être réglés avant que ne soit donné le premier tour de manivelle. Finalement, dans le cas de Ran, la préparation, compte tenu des retards, représente en gros 2 ans pour un tournage qui s'est échelonné sur 9 mois. L'opération Ran a mobilisé en permanence 130 personnes attachées directement au film, ainsi que des corps de métier les plus divers, en passant des charpentiers responsables de la construction du château destiné à être brûlé sur les pentes du mont Fuji, aux tisserands de Kyoto qui ont tissé à la main tous les kimonos portés par les principaux acteurs.
こういうことなんですよ。大変あの俳優さんたちがね、こうの動きやなんかがその。
Il n'y a absolument pas d'influence du no dans le jeu des acteurs. Il ne s'agit pas du tout de théâtre traditionnel japonais. Le jeu des acteurs est conditionné par les mouvements qu'ils ont à faire, par les codes de la bienséance, de la politesse, ou par les manières de cette époque qui étaient très strictes. Ces mouvements, très formels, conditionnent le jeu et peuvent faire penser au kabuki ou au no, mais ça n'a rien à voir. Ça tient aux codes sociaux de l'époque. Comment on marche, comment on s'assoit, comment on ouvre les portes. Par exemple, les hommes ne doivent pas porter le sabre dans la main droite quand ils entrent dans un château, sinon ça veut dire qu'ils sont prêts à s'en servir. Il s'agit donc de mouvements conditionnés par des codes, sauf à quelques moments du film où j'ai voulu, par exemple, faire jouer Tsurumaru à la manière du no. En ce qui concerne la couleur des costumes, elle m'a donné beaucoup de mal, parce qu'autrefois, les couleurs étaient obtenues avec des teintures végétales, alors que maintenant, on ne dispose plus que de teintures chimiques. Mais je suis tout de même presque arrivé à atteindre les nuances du XVIe siècle japonais, et j'en suis content. En ce qui concerne l'utilisation de ces couleurs, j'ai décidé, pour clarifier les scènes de bataille, parce qu'on ne sait jamais qui est qui, d'attribuer à chaque troupe une teinte particulière. Pour le fils aîné, Taro, c'était le jaune. Le deuxième fils, Jiro, le rouge. Le troisième fils, Saburo, le bleu. et les seigneurs des domaines mitoyens, Fujimaki, beau-père du troisième fils, c'était le blanc, et l'ennemi final, Ayabe, c'était le noir. J'ai essayé de faire revivre réellement les couleurs du XVIe siècle japonais. Les costumes à cette époque étaient particulièrement brillants, étonnants, étincelants presque. C'était plutôt des costumes qu'on pourrait imaginer portés par des femmes. Le jaune qu'on a donné à Taro souligne son caractère peu affirmé, assez neutre. Comme le dit Kiyoami dans la chanson, il vacille par-ci, il vacille par-là. Le rouge, c'est le caractère de Jiro, emporté, violent. Le bleu du troisième fils incarne une certaine pureté, une certaine fraîcheur. Et même, parmi toutes ces couleurs, il y a beaucoup de nuances. Le rouge de Jiro n'est pas un rouge banal. C'est l'espèce de rouge qui lui correspond le plus.
Étant donné que Kurosawa avait dessiné et peint tous les costumes depuis longtemps.
Ouli Picard.
Et qu'il tenait essentiellement à voir ses costumes et ses armures réalisées telles qu'il les avait conçues dans ses dessins, la costumière, Emi Wada, s'est adressée aux plus grands spécialistes à Tokyo et à Kyoto, et le résultat était que je me suis trouvé devant un budget colossal qui dépassait de loin ce que j'avais prévu. Et je lui ai dit, mais c'est impossible, on ne peut pas dépenser des millions pour des costumes. Est-ce qu'on, puisque après tout nous faisons du cinéma, est-ce qu'il faut vraiment des kimonos tissés avec des fils d'or? Est-ce qu'on ne peut pas mettre du jaune pour faire de l'or, puisque nous ne faisons que du cinéma? Eh bien, elle a, bien entendu, elle m'a donné raison, mais elle avait une crainte terrible de Kurosawa. Alors, je me suis adressé à Kurosawa directement et j'ai dit, Akira, ce budget est tellement colossal, ça dépasse nos possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a été extrêmement compréhensif, il m'a dit, vous avez raison, c'est honteux de demander tant d'argent, laissez-moi parler avec les fournisseurs. Et à ma grande surprise, on a ramené le budget aux proportions que j'avais dans le devis. D'une part, parce que il a quand même diminué un petit peu le nombre de costumes envisagés, et que de l'autre côté, les fournisseurs, toujours par cette fameuse déférence devant Kurosawa, ont tout simplement baissé leur prix. Ils m'ont expliqué qu'ils demandaient énormément d'argent, connaissant la façon de travailler de Kurosawa, qui, malgré un devis établi, demandait toujours le double ou le triple. Ils se sont donc couverts au départ. Même chose d'ailleurs pour la construction de décors. Au point de vue matériel, il n'a eu qu'une seule exigence, c'est de tourner avec 3 caméras, ce qui me semblait tout à fait normal compte tenu de l'envergure du film. Et la consommation de la pellicule était normale pour un film de 9 mois de tournage.
Thank you.
Vous qui avez vu mes films, vous savez que le compositeur Ayasaka Fumiyo, qui a fait les musiques de Sept Samouraïs, L'Ange Ivre ou Du Chien Enragé, était un jeune compositeur talentueux. Il a eu le prix Weingarten et il est mort jeune. Après, j'ai travaillé avec Masuro Sato, puis Takemitsu, disciple de Ayasaka. Je ne peux travailler qu'avec des gens de son espèce, qui ont du génie et une forte personnalité. Composer de la musique de film, c'est de toute façon accepter de se conformer à la volonté du réalisateur, parce que c'est quand même le réalisateur qui conçoit le film, et que le compositeur ne fait pas une musique de manière totalement indépendante. Le réalisateur est un chef d'orchestre, et dans l'orchestre, il y a aussi le compositeur qui se conforme aux indications du chef d'orchestre qui, lui, combine le tout. Nous avons eu des discussions normales, beaucoup de discussions préalables, et nous sommes tous les deux tombés d'accord. C'est la seule chose que je puisse dire. J'ai parlé du film avec lui, avant même le tournage, pour lui expliquer ce que je voulais et dans quelle perspective j'allais effectuer mon tournage et à quel moment j'envisageais la musique. Il est venu sur les lieux du tournage, mais cette longue procédure n'est pas particulière à ce film. Si j'avais dû choisir un musicien occidental, j'aurais choisi Mahler. Et je crois que la musique de Takemitsu est vraiment mahlérienne.
Enfance. J'étais dans un baquet, nu. L'endroit où je me trouvais était faiblement éclairé. Plongé dans l'eau chaude, je me balançais en me tenant au rebord et le baquet oscillait sur la base entre deux planches inclinées. L'eau faisant dans le balancement des petits bruits d'éclaboussures, tout cela devait me sembler fort intéressant car je balançais le baquet de toutes mes forces quand soudain il se renversa. J'ai gardé très présent le souvenir de l'étrange sentiment de choc et d'incertitude que j'ai éprouvé à ce moment-là, dans la sensation glissante et humide de l'espace entre les deux planches contre ma peau nue, et aussi d'avoir regardé au-dessus de moi quelque chose qui brillait et dont l'éclat me faisait mal. Ayant atteint l'âge de raison, il m'arrivait de repenser à cet incident, mais celui-ci me semblait sans grande importance, et je n'en parlais à personne, jusqu'à ce que je devienne adulte. Et là, je devais avoir dépassé 20 ans, quand, je ne sais plus pourquoi, j'ai raconté à ma mère cette sensation dont je me souvenais. Elle me regarda un moment, saisie de stupeur, puis elle m'apprit que cela ne pouvait être que l'histoire qu'il m'était arrivée quand nous étions à la maison natale de mon père, en Akita, pour assister au service commémoratif de la mort de mon grand-père. À ce moment-là, je n'avais pas plus d'un an. Ce lieu faiblement éclairé, où j'étais dans un baquet calé entre deux planches, c'était la pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle d'eau dans la maison natale de mon père. Ma mère voulait me donner un bain, mais elle avait commencé par me mettre dans le baquet d'eau chaude pour aller dans la pièce à côté pour retirer son kimono. Soudain, elle m'entendit crier de toutes mes forces et de mes poumons. Elle se précipita pour me trouver culbutée sur le sol par le baquet et pleurant. Cette chose au-dessus de ma tête, dont la lumière me faisait mal, c'était, m'expliqua ma mère, probablement une lampe à pétrole suspendue au plafond, comme il y en avait encore quand j'étais petit. Cette histoire avec le baquet est mon tout premier souvenir. Évidemment, je ne me souviens pas du moment de ma naissance. Mais ma sœur aînée, à présent disparue, me disait souvent que j'étais un bébé pas ordinaire. On disait que j'étais sortie du ventre maternel sans émettre un son, les mains fermement nouées l'une à l'autre. Et quand ils arrivèrent enfin à les séparer, ils virent que j'avais des meurtrissures sur les paumes. Après cet incident du baquet, dans ma première année, il ne me reste de ma petite enfance qu'un petit nombre de souvenirs, sous une forme qui ressemble à des chutes de films flous. Ce sont toutes des choses vues de mon poste d'observation sur les épaules de ma nourrice.
Comme une autobiographie, un extrait des souvenirs de Akira Kurosawa traduit en français par Michel Chion et publié par les éditions du Seuil et les Cahiers du cinéma. Longtemps résigné à ne pas publier une ligne de ses mémoires, Kurosawa s'est laissé fléchir mais a refusé d'aller plus loin que les années 50. Toutefois, ce court aperçu suffit à détruire en partie le mythe qui entoure celui qu'on appelle dans l'archipel l'empereur. L'écrivain se révèle aussi attachant que le réalisateur et devrait dissiper les malentendus qui fleurissent aussi en France, puisqu'on n'hésite pas à le désigner comme étant le plus insondable que le plus hermétique des Japonais.
Les Japonais ont une telle dévotion, ils le craignaient. Donc, Kurosawa donnait des ordres, commandait, et tout le monde s'exécutait. Nous avions besoin de savoir le coût du film avant. Et c'est pour cela qu'on était obligé de lui poser des questions, de travailler avec lui, de le triturer. Bien entendu, ça l'a rendu nerveux. Plusieurs fois, il y a eu des frictions, mais il a compris que c'était pour le bien de l'affaire. C'est une force de la nature pour un homme de son âge, un homme de 75 ans. Je ne compte même pas la préparation qui est harassante, qui est fatigante, mais le tournage d'un film de près de 9 mois où il faut être sur la brèche tous les jours, quelquefois à 5 heures du matin, et des journées qui se terminent à 7-8 heures du soir, encore s'enfermer dans une salle de montage, je l'ai admiré parce qu'il a une résistance extraordinaire. C'est vraiment un rock. Et si on l'appelle l'empereur, entre guillemets, c'est aussi parce que c'est un être exceptionnel.
Comme une autobiographie. Akira Kurosawa, la fascination du cinéma.
Je subissais également la fascination du cinéma. Mon frère aîné, qui ne vivait plus chez nous et qui allait de meublé en meublé, s'adonnait à la littérature russe. Mais en même temps, il écrivait sous des pseudonymes divers des notices pour les programmes de cinéma, en particulier de l'art du cinéma étranger, qui s'était beaucoup répandu chez nous après la Première Guerre mondiale. En cinéma, comme en littérature, je dois beaucoup au goût et au discernement de mon frère. Tous les premiers films qu'il me recommandait, je prenais soin d'aller les voir. Dès l'école primaire, je faisais à pied tout le chemin jusqu'à Asakusa, pour un film dont il me disait du bien. Je ne me rappelle pas de ce que je voyais à Asakusa, mais je me rappelle ce que j'ai vu au cinéma opéra. Je me souviens avoir fait la queue pour acheter des billets à prix réduit pour la séance du soir, et je me rappelle aussi la terrible semonce que mon père infligea à mon frère lorsque nous fûmes rentrés. J'ai essayé de faire la liste des films qui m'ont impressionné à l'époque, et cette liste approche la centaine de titres.
Je ne parle pas spécialement de la dégradation. Je dépeins les êtres humains tels qu'ils sont. En fait, ils ne font que répéter les mêmes horreurs, les mêmes erreurs, les mêmes actes sanguinaires et violents depuis la nuit des temps. Et on n'a pas encore compris qu'on doit arrêter la guerre, que pour le pouvoir, les hommes continuent à répandre le sang, à se battre. Et je me demande pour combien de temps. Pour combien de temps les êtres humains vont continuer à se comporter de cette manière absurde et à se contenter de cette situation? J'ai montré la réalité. La question est de savoir combien de temps elle va durer. J'avais déjà montré la destruction totale d'un château, donc à la fin du film, je ne pouvais pas en montrer une autre. Et je pensais que pour une fin globale de toute cette histoire, il fallait terminer sur le héros, Hidetora. Alors, j'ai achevé sur la fin d'Hidetora et de Saburo. Cette histoire-là se termine ainsi, mais dans un autre lieu, la guerre continue. Et les hommes répètent encore les mêmes erreurs.
Autour de Ran, une émission de Bertrand Raison, Serge Toubiana, Hélène Pommier, avec Akira Kurosawa, Serge Silberman, Uli Picard et le concours de Catherine Cadou pour la traduction et Benjamin. Mixage, Gilles Soulage, Yann Parentoen.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 octobre 1985 sur France Culture.